Bonjour et bienvenue sur Radio Galère pour l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs et actrices de la transition écologique et solidaire sur Marseille. Et ce soir, je suis avec Marin.
Bonsoir.
Ainsi que Chloé et Sidi en régie, qui nous feront un petit chaise à la main. Nous serons rediffusés demain matin, jeudi, à de 9h à 10h. Et ce soir, nous accueillons Gaëtan, qui travaille pour les alchimistes.
Bonsoir, bonsoir Radio Galère.
Donc Gaëtan, sans plus tarder, je te laisse te présenter et je te donne la parole.
Alors je m'appelle Gaëtan, je suis originaire de Bordeaux et depuis maintenant quelques temps, je vis à Marseille. Je travaille pour les alchimistes depuis un an et demi. Les alchimistes, en quelques mots, nous ce qu'on cherche à faire, c'est régénérer les sols. Utiliser les déchets alimentaires pour régénérer les sols, créer des sols fertiles et nourrir les Marseillais.
Alors peut-être qu'avant de vraiment rentrer dans la définition de la régénération des sols, tu peux nous présenter un petit peu ce qui t'a amené de Bordeaux à Marseille et travailler sur ce sujet. C'est quelque chose qu'on aime bien présenter pour nos auditrices et nos auditeurs, pour qu'ils puissent un peu se projeter dans des parcours, l'idée de se dire mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Donc la parole est à toi pour nous présenter un petit peu ton parcours à ce niveau-là.
Ok, quelle chance. Du coup, moi j'ai étudié une licence dans le commerce, quelque chose d'assez banal à Bordeaux. Et j'avais vraiment envie de vivre dans le sud, le vrai sud, pas Bordeaux. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de faire ma troisième année de licence à Marseille. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et ensuite, j'avais un stage à faire au deuxième semestre et je l'ai fait dans une fondation pour la protection de la biodiversité marine. J'avais déjà cette envie, cette appétence de m'engager dans l'environnement. Et de là, j'ai fini cette licence et je me suis dit, mince, j'ai envie d'aller quand même un peu plus loin que juste faire un stage dans une fondation. Et du coup, j'ai commencé un master dans la transition écologique, management de la transition écologique. Et j'ai intégré en même temps les alchimistes en alternance.
Et donc ça, c'était il y a...
Et donc ça, c'était il y a un an et demi.
Ok.
À la fin de cette année, ça fera mes 2 ans et je serai diplômé.
Waouh! Et ouais, tu les as pas quittés depuis quoi?
Non, fidèle aux alchimistes.
Ça doit bien se passer.
Très, très bien, oui.
Et alors, du coup, avant peut-être de présenter les alchimistes, peut-être qu'on peut, on peut donner peut-être quelques définitions. Tu nous parles de régénération des sols. Ça veut dire quoi? On a peut-être une idée d'un concept, se dire un sol qui est paupérisé, à quel on va pouvoir le réenrichir de différents éléments. Naturel, mais tu as un vocabulaire plus précis que le mien, donc vas-y.
Je ne sais pas s'il y a un vocabulaire plus précis, mais en tout cas pour parler, pour que ça soit parlant, régénérer les sols, pour moi, c'est redonner de la matière, redonner de la vie à un sol. C'est permettre qu'un sol, aujourd'hui, on a tendance, quand on marche en fait, dans la rue, on oublie qu'on marche sur un sol. Le sol est de moins en moins palpable, notamment du fait de l'urbanisation. Et de se dire qu'on va régénérer les sols, c'est un peu qu'on va redonner un peu un côté enfantin et magique, et on va redonner de la matière, redonner de la vie. Et voilà, et c'est, du coup, c'est, pour moi, c'est ça la régénération des sols.
Si je peux me permettre, c'est d'autant plus nécessaire avec toute l'utilisation des sols qu'on a faite aujourd'hui et dans le passé. On a cultivé, on a mis des intrants. Du coup, les plantes ont poussé pour nous faire de la nourriture, par exemple, ou pour grandir, pour capter le carbone, par exemple aussi. Et du coup, les sols sont devenus de plus en plus pauvres dans la façon dont on les a cultivés et dont on les a exploités. Ce qui fait qu'on a de moins en moins de nutriments. Donc, rajouter des nutriments dans les sols, c'est hyper clé si l'on veut être durable dans notre utilisation du monde et du sol et de notre agriculture, de notre alimentation. C'est... de la résilience.
Ouais, carrément. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'aller plus loin dans le sujet, mais en effet, on a pendant très longtemps pensé qu'en fait, il fallait nourrir une plante. Quand on cultive, on veut nourrir une plante, on lui donne des engrais, mais on oublie qu'en fait, la plante, elle se nourrit du sol. Et du coup, si on ne nourrit pas le sol directement, à terme, en fait, on appauvrit le sol et on aura beau essayer de toujours donner des engrais à la plante ne va plus pouvoir se nourrir, ne va plus pouvoir vivre. Mmh. Et du coup, c'est un peu ça, cette notion. C'est de se dire qu'on n'est pas là pour... cultiver des légumes, on est là pour cultiver du sol qui, lui, nous permettra de cultiver des légumes, en fait. On a un peu court-circuité cette chronologie, et du coup, voilà, c'est pour ça régénérer les sols.
Exactement. Et du coup, comment le travail des alchimistes se cale dans toute cette idée de régénérer les sols? Qu'est-ce que vous faites exactement?
Ouais. Les alchimistes, alors pour la petite information, on est arrivé à Marseille donc il y a 3 ans, enfin on a été créé à Marseille il y a 3 ans. Et en fait, la volonté des alchimistes, c'est de se dire qu'il y a une ressource qui est perdue, qui est gaspillée, en l'occurrence les déchets alimentaires, et que cette ressource, on ne s'en sert pas, et que les fois où on s'en sert, on l'expatrie très loin des villes. Et du coup, la volonté des alchimistes, c'est de collecter des déchets alimentaires et de les revaloriser de façon ultra locale et de les réemployer sur le territoire, qu'elles permettent de régénérer les sols du territoire. Donc nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc de la collecte des déchets alimentaires auprès de restaurateurs, mais aussi auprès d'entreprises. On travaille avec beaucoup d'écoles, de cantines scolaires. Mmh. On travaille avec des maisons de retraite qui sont des gros producteurs de déchets alimentaires, on peut l'imaginer. On travaille aussi avec les particuliers auprès des, par le biais des collectivités. Et une fois qu'on a traité, une fois qu'on a collecté ces déchets alimentaires, ben on va les valoriser, on va les transformer en compost pour que ça puisse servir à des projets de maraîchage, notamment de maraîchage urbain, ou à des projets de végétalisation des villes.
Alors peut-être que là aussi, on peut donner quelques petites définitions de vocabulaire. Mm-hmm. Quand tu parles de déchets alimentaires, à quoi fais-tu référence plus exactement? Parce qu'il y a des déchets auxquels on peut penser spontanément, des épluchures, d'autres qui sont moins... à venir à l'esprit au premier abord, peut-être des cartons de boîtes d'œufs par exemple, ou parfois oui, parfois non.
Il y en a qui valent plus ou moins le coup.
Voilà, donc
nous
dire un peu, et puis même après le mot compost, mais on posera la question après, déjà c'est quoi un déchet alimentaire et qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dedans?
Ouais, carrément. Là il y a eu plusieurs choses qui ont été dites, je pense que le pas de recul à faire avant, c'est biodéchet. Le biodéchet, donc, c'est tout déchet qui va être biodégradable, donc qui va se dégrader de matière naturelle sans aucun processus. Donc là, dans le déchet biodégradable, on peut retrouver en effet du carton, on peut retrouver les déchets verts comme la tonte de pelouse, les feuilles d'arbres, et on va retrouver le déchet alimentaire. Lui, les déchets alimentaires, donc c'est en effet, ça va être l'épluchure, ça va être un reste de repas, ça va être tout type de déchets organiques, en fait. Ça peut être du marc de café, ça peut être du thé, voilà, c'est beaucoup plus large, mais c'est un déchet qui est organique. Mmh. Et, à ne pas confondre avec le biodéchet qui lui correspond à un plus large panel de déchets et qui sont tous biodégradables.
J'avais une question justement par rapport à cette notion de biodéchet qui se désagrège tout seul, parce que quand on y pense à une échelle étendue de temps, tous les déchets peuvent se dégrader soi-même. Enfin, du plastique, ça va finir par se dégrader. Du métal, ça va finir par se dégrader. Donc, quelle échelle de temps, sur quoi vous vous basez pour dire ça, c'est un biodéchet qui est intéressant pour nous et qu'on peut revaloriser, qui a de la valeur par rapport à un biodéchet qui n'aurait pas de valeur?
Alors,
comme du plastique.
Du coup, le plastique n'est pas un biodéchet parce qu'il ne va pas se dégrader. En fait, il va se dégrader. Mais il va toujours laisser des éléments toxiques, des éléments nocifs dans la nature. Et puis, ce n'est pas un déchet naturel, contrairement au carton qui vient d'une matière naturelle, en fait. C'est dans là aussi qu'on entend biodéchet, biodégradable et biologique, plus ou moins. Après, qu'est-ce qu'il y a comme meilleur déchet ou comme moins bon déchet? Nous, pourquoi d'ailleurs, on aurait le temps d'en parler aussi, mais pourquoi on se concentre sur le déchet alimentaire? C'est que le déchet alimentaire donc, est un déchet organique et les déchets organiques ont une forte valeur agronomique. Ils sont très importants pour les sols parce qu'ils apportent beaucoup d'azote et ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour les sols. On pourra parler justement des engrais azotés. Bah, grâce au déchet alimentaire, on peut se passer de cette ressource. Et du coup, le déchet organique a vraiment une forte valeur, beaucoup plus que d'autres déchets. Si on prend l'exemple des déchets verts qui eux vont plus être des déchets carbonés alors que les déchets organiques c'est un déchet azoté.
Et alors du coup là tu nous parlais un petit peu des déchets que vous récupériez dans vos composts et la question, la deuxième question de vocabulaire c'est un compost. C'est quoi un compost? Comment fonctionne un compost? Avant d'ensuite d'expliquer ce que vous en faites, pareil, ça peut parfois porter à confusion de certaines personnes qui ne savent pas exactement quoi mettre dedans et parfois avoir de fausses bonnes idées. Je sais que certains agrumes, par exemple, c'est pas forcément une super idée de les mettre dans un compost. Donc, vas-y.
Alors, un compost, ça peut tout simplement... c'est pour faire mon pointilleux, mais un compost, ça peut tout simplement être juste un abri, un box dans lequel on va faire du compost. C'était juste pour un peu différencier le compost. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un terreau. Plus ni moins qu'une matière qu'on va voir qui ressemble très fortement à de la terre, qui est composée de déchets alimentaires, et de déchets verts. Je parlais tout à l'heure du déchet alimentaire qui était composé d'azote et le déchet vert qui était composé de carbone. En fait, c'est ce mélange-là, quand on va justement les mélanger, qui va permettre la dégradation de ces déchets alimentaires et de ces déchets verts ensemble. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on va les mélanger? Il va y avoir plein de petites bêtes qui vont apparaître, qui vont toutes faire leur travail. Elles vont du coup dégager du CO2, de la chaleur. Et en fait, avec la chaleur, on va avoir une décomposition de cette matière. Et ensuite, on a d'autres micro-espèces qui vont apparaître, comme des champignons, comme le ver de terre, le fameux ver de terre indispensable pour la vie des sols, qui lui va manger cette matière. Et le compost, c'est ni plus ni moins que les excréments, en fait. C'est ça qui nous reste. Mmh. Et c'est celle-ci qui est une matière organique très riche, qui est en fait ce qu'on appelle du humus. Le humus, c'est le sol. Donc voilà, le compost, en fait, c'est cette dégradation naturelle de déchets alimentaires et de déchets verts, azote et carbone. C'est ce qu'il faut retenir.
Oui, c'est d'autant plus important que, d'après ce que j'ai compris, en France, dans l'agriculture, on importe beaucoup de composés azotés pour justement faire des engrais, pour tout ce qui est, pour tout en fait, pour tout ce qu'on cultive. Donc si j'ai bien compris, vous proposez une solution pour limiter les importations et une solution qui serait un peu plus locale.
Exactement, on a une grosse fin d'azote dans les sols en France et du coup on consomme beaucoup d'engrais azotés. Mmh. Alors jusqu'à présent on ne se rendait pas compte à quel point on en était dépendant, mais la crise actuelle et la crise de l'énergie en fait a coupé les industries d'engrais et les ont poussées à stopper la production d'engrais. On s'est rendu compte à quel point on était dépendant de cette production et du coup le compost alimentaire, le déchet alimentaire peut être une réponse à ces enjeux-là. Et l'était déjà, mais peut l'être encore plus aujourd'hui. C'est d'autant plus d'actualité.
Si ma mémoire est bonne, il y a aussi les déchets produits par les organismes humains qui sont assez riches en azote.
Et, l'urine.
Oui, l'urine notamment. Quand on dilue de l'urine alors qu'on ne prend pas de médicaments particuliers, ça peut être un engrais extrêmement précieux. Et quand on sait ça, ça réinterroge profondément, et ça me permet un peu d'aller sur la suite, c'est les lignes de production. Si on peut très bien avoir si on reprend les déchets alimentaires, production, consommation, déchets, et après on brûle, on utilise encore de l'énergie pour brûler une ressource qui peut être extrêmement utile.
On est censé en faire en brûlant normalement de l'énergie.
Comment ?
On est censé en fabriquer en brûlant justement.
Ouais, mais tu vois là, t'es pas sur une boucle
c'est pas une boucle qui revient au sol.
De la même façon que sur du déchet humain, tu vois, tu peux très bien dire qu'on fait ça dans de l'eau qu'on va souiller d'une certaine façon et qu'on va perdre à la fois cette eau et cette matière qui pourrait être première, alors que si jamais on les inscrivait dans d'autres boucles, on pourrait aller sur des cycles beaucoup plus régénératifs. Mmh. Et c'est ce sur quoi vous travaillez, vous. Alors, pas sur le volet des excréments humains, mais sur le volet de récupérer ces différents déchets. Puis comment est-ce qu'ensuite on les inscrit dans des boucles pour que plutôt que ça soit perdu et perdre ou utiliser de l'énergie, comme tu dis, que ça soit quelque chose qui soit remis dans le sol et que... Enfin, je te laisse nous présenter un peu la petite boucle que vous installez, vous, et puis j'imagine avec d'autres acteurs.
Oui, carrément. Bah, en gros, je pense que le principe même, c'est d'arrêter d'être dans une économie linéaire et de venir dans un principe de circularité, donc arrêter d'extraire, de produire, de consommer, de jeter, mais de vraiment produire moins, consommer mieux, et ensuite, une fois qu'on a consommé, se poser les questions et de se dire, bah, en fait, qu'est-ce que c'est un déchet? Est-ce que le déchet n'est pas forcément ni plus ni moins qu'une ressource, en fait? Et du coup, nous, notre boucle, elle est simple, c'est d'aller donc dans les lieu de production de déchets alimentaires. Donc on a parlé de la typologie de clients, elle est très vaste, tout le monde produit des déchets alimentaires vu qu'on a tous besoin de se nourrir, et ensuite se dire que il y a des besoins énormes, notamment en centre-ville, de se nourrir aussi derrière. Donc on a besoin de sol, on a besoin de sol fertile, on a besoin donc d'engrais. Alors nous, quand on parle de compost, on parle d'amendement organique. Mmh. Et du coup, c'est de se dire, on va collecter des déchets alimentaires dans des lieux de vie, on va les composter le plus localement possible, et ensuite on va redistribuer ce compost à des maraîchers qui sont situés pareil sur le même territoire. Et du coup, en fait, c'est fou de se dire qu'avec notre assiette, on va permettre de faire pousser une tomate qui a poussé à 10 km de chez nous, et on va la remanger et on va la repousser. Et en fait, c'est une boucle infinie. Une fois qu'on a vraiment mis en place ce processus, c'est infini.
C'est un bel imaginaire, en effet.
Ouais.
Et moi, ce que je me demande dans tout ça, tu nous as un peu présenté ton parcours, ce que vous faites. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans tout ça, dans les alchimistes? Quel est ton travail? Comment tu fais évoluer ce projet? Comment tu t'impliques dans tout ça? Comment tu t'engages?
À titre personnel, au départ, quand j'ai intégré les alchimistes, c'était notamment pour une mission qu'on faisait pour la métropole, donc Aix-Marseille-Provence, dans le cadre d'un d'un projet expérimental qui était donc de mettre en place le tri à la source des déchets alimentaires pour les habitants et les habitantes de Marseille. Donc on les a accompagnés durant un an et demi à piloter des indicateurs, à tester différentes méthodes de collecte. C'était super intéressant de voir ça et d'avoir cette dimension à l'échelle d'une métropole. Et sinon, dans d'autres missions, je vais m'occuper notamment de réfléchir à l'implantation de nos sites, parce que donc pour être pertinent et pour pouvoir avoir une offre, pour pouvoir répondre aux enjeux, on a besoin de s'implanter sur le territoire, donc on a besoin de sites, on a besoin de toujours retravailler nos processus, peut-être des choses qu'on pensait faire il y a un an et demi, on se rend compte que c'est pas possible, du coup on va les faire différemment. Donc on est un peu dans un marché nouveau et on est en constante évolution et du coup je travaille notamment sur ces sujets-là, que ça soit la relation avec les agriculteurs, que l'implantation des sites.
Oui, parce que c'est toute une prise de conscience qui, malgré des alertes, des alerteurs d'il y a beaucoup plus longtemps, notamment Pierre Rabhi sur l'agroécologie, c'est une prise de conscience qui, globalement, n'est que très récente. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ce travail avec la métropole, c'est bientôt 2 années chez les alchimistes ? Est-ce que tu as vu les choses avancer, évoluer ? Est-ce que tu es optimiste de la transformation que tu as vue se faire devant toi ?
Je sais pas si je suis optimiste. En tout cas, les choses avancent. Souvent, les choses, elles avancent par la contrainte, malheureusement, et pas par l'envie. Et du coup, si on prend le secteur du gaspillage alimentaire et des déchets alimentaires, il y a des lois qui rentrent en vigueur. Et du coup, forcément, les choses tendent à évoluer en mieux. Néanmoins, je sais pas s'il y a... Bien sûr, selon les cercles de personnes, on va sentir comme un engouement, comme une envie. Dans d'autres secteurs, c'est un peu plus compliqué, notamment parce que la transition, c'est quelque chose de systémique qui doit se faire à toutes les échelles. Du coup, c'est parfois compliqué de faire bouger les lignes. Mais en tout cas, je pense que voilà, la réglementation, c'est l'une des choses qui marche le mieux, en tout cas, dans la contrainte.
Malheureusement,
carrément. Mais aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, sans la contrainte, c'est vrai que c'est dur de faire bouger les lignes, encore une fois, à toutes les échelles, à tous les échelons. Mais moi, depuis que je suis arrivé, oui, il y a des choses qui évoluent, mais c'est surtout sur ce levier-là, c'est surtout sur le levier législatif.
Oui, malheureusement, il y a beaucoup de leviers législatifs à faire. Moi, j'avais étudié un peu sur les droits de l'environnement, mais malheureusement, il y a peu de personnes et peu de moyens de faire valoir ces droits de l'environnement et de dire, il faut les sols ont des droits, la biodiversité a des droits et il faut se battre pour ça, il faut faire avancer. Et ma question, ce serait, quels sont vos autres moyens que l'entreprise de gestion des déchets ? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez une activité un peu diverse. Est-ce que tu pourrais présenter justement ce que vous faites ?
Au-delà donc de là, c'est un peu notre, en fait, ce qu'on vient de parler, même si c'est notre mission, même si c'est ce qui nous tient à cœur, c'est aussi notre modèle économique, hein, c'est ça, les collecter des déchets alimentaires et les valoriser en compost.
Oui, parce que du coup, vous êtes payé pour cette prestation de gérer les déchets, de les récupérer, de les transformer, de les valoriser.
Exactement. On facture nos clients à la collecte. Donc, c'est un service payant qui est mis en place. Mais alors, pour revenir sur nos autres activités, on a aussi une volonté, en fait, c'est de se dire que tout le monde peut être alchimiste. Il n'y a pas forcément besoin d'être salarié d'une entreprise alchimiste pour être alchimiste. Tout le monde peut être alchimiste. Et qu'est-ce que ça veut dire être alchimiste ? Ça veut dire se poser des questions au moment de vider son assiette dans la poubelle classique et de se dire, en fait, qu'est-ce que je peux faire de ce déchet alimentaire ? À quoi il peut servir ? Et du coup, je dirais pas convertir, mais pour sensibiliser à la cause, on fait justement de la sensibilisation. Donc, on va beaucoup dans les écoles. On va beaucoup dans les lycées, on va dans les entreprises et on sensibilise à cette cause qui est l'écologie au sens large, l'environnement, mais qui est surtout la sensibilisation au gaspillage alimentaire et au compostage pour présenter l'importance du compost.
Et alors, cas pratique, tout à l'heure j'ai fait des poireaux et je viens de déménager, donc je vais bientôt acheter un compost. Mais la vraie question est, une fois que j'ai mon petit lubricomposteur pour mon appartement, où est-ce que je vais le jeter ? Alors ensuite, j'ai regardé sur votre site et c'est pas toujours super prêt. Comment est-ce qu'on fait ? C'est qu'il y a aussi des moments où, de façon pratique, le compost n'est pas le plus proche de chez soi. Et puis même pour aller chercher un compost, enfin je veux dire le petit lubricomposteur de l'appartement qu'on peut utiliser pour faire ça, c'est pas non plus, enfin parfois on a l'impression que c'est un peu une espèce de labyrinthe. Donc donne-nous peut-être quelques clés pour que on puisse être alchimiste à notre tour et prendre part à ce j'allais dire ce jeu, c'est pas vraiment un jeu, mais en fait à cet équilibre où on est tous responsables.
Carrément. Bon, si on a un peu de chance et qu'on a un jardin, c'est un peu plus simple. Donc, on peut faire du compostage et donc utiliser ce compost directement dans les sols. À savoir qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir une plante. Hein. On peut tout simplement se dire qu'on va nourrir ni plus ni moins que du gazon, ni plus ni moins que la terre. En fait, c'est toujours bon de retourner au sol. Après, quand on n'a pas forcément cette opportunité-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a clairement un manque d'offres sur. On parle de la ville de Marseille, bien évidemment. Il y a clairement un manque d'offres et de possibilités. Alors, il y a différents moyens. Soit c'est le compostage partagé. Donc ça, c'est quand on est dans un immeuble, on peut voir, se renseigner avec les habitants de l'immeuble et mettre en place un composteur partagé. Donc un gros compost qu'on va mettre au pied de la résidence. S'il y a justement des espaces verts, c'est encore plus pratique. Auquel cas, il y a des associations qui font l'accompagnement de ce type de projet très très bien, comme l'une qui s'appelle le Réseau Compost Citoyen, qui est présent sur tout le territoire et qui font des choses super justement dans ce sens, de former les gens à composter de manière autonome. Si on n'a pas la possibilité de faire ça, qu'on ne peut pas, donc on peut se renseigner s'il existe donc des points d'apport volontaires. Les points d'apport volontaires, ce sont donc des abribacs qui sont mis en place par les collectivités cette fois-ci, dans lesquels on peut jeter nos déchets alimentaires. Ce n'est pas un composteur, le compostage ne va pas se faire à l'intérieur de l'abribac, mais ensuite il y aura quelqu'un qui va passer, en l'occurrence à Marseille, c'est nous les alchimistes, qui vont venir donc collecter les déchets de cet abribac pour ensuite en faire du compost. Donc pour être alchimiste, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se renseigner sur qu'est-ce qu'on a à côté de chez soi, soit dans des jardins. Il y a beaucoup de jardins qui mettent en place des composteurs, dans lesquels, pareil, c'est une association qui gère ça et on peut aller jeter ses déchets. Il y en a plusieurs sur la ville de Marseille, qu'on peut trouver sur le site de la métropole d'ailleurs.
Okay.
Et donc voilà, il y a différentes possibilités. C'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant quand on ne connaît pas et qu'on arrive un peu, enfin, qu'on est nouveau dans cette thématique, mais on peut quand même faire des choses.
Non, mais c'est important de savoir vers quoi se tourner. Donc là, visiblement, c'est aussi. Si je cherche un abri-bac, il faut que je regarde sur le site de la métropole, de façon hyper concrète.
Voilà, et même si on cherche un compostage partagé, tout se passe au niveau de la métropole. C'est elle qui a la compétence de ces déchets. Et du coup, elle peut vous accompagner, franchement, y répondre. Voilà, il y a une adresse mail, il y a tout.
Et si on veut se doter d'un lubricomposteur, et peut-être aussi que tu peux nous expliquer ce qu'est qu'un lubricomposteur.
Un lombri, pardon,
je sais pas le prononcer correctement. Comment est-ce qu'on se le procure et est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça demande un entretien? Enfin voilà, et peut-être déverrouiller les craintes ou les questions qu'on peut avoir par rapport à l'idée de se dire, parce que j'aurai plein de moustiques chez moi, ou alors ça me coûte une fortune.
Carrément. Voilà. Bon, on dirait que je suis venu pour faire une pub à la métropole, mais du coup, encore une fois, on peut acheter.
De sujet après, ouais, si tu veux.
On peut acheter sur le site de la métropole des lombricomposteurs ou des composteurs. Alors la différence, un composteur, ce n'est ni plus ni moins qu'un box en bois, qu'une caisse en bois dans laquelle on va faire nous-mêmes le mélange, donc déchets alimentaires, déchets végétaux, ce qu'on disait, et c'est à nous de brasser. Le lombricomposteur, c'est différent. En fait, on utilise le lombric, qui est donc un ver de terre, qui vient tout simplement manger les déchets alimentaires qu'on va mettre dans ce lombricomposteur. Et encore une fois, c'est les excréments qui vont donc être le compost qu'on va récupérer. On récupère même aussi du jus de compost qui peut servir et qui marche très bien pour arroser les plantes. Et donc, quand on a un lombricomposteur, il faut juste faire attention parce que le lombric, bon, il mange à peu près de tout. Mais si on lui met 2 kilos de citron d'un seul coup, il va peut-être un peu faire la gueule quand même. Donc il y a quelques petites spécificités. Pareil, il ne va pas ronger un énorme os de viande ou quoi, alors que dans un composteur, bon, on peut se permettre de le mettre.
Oui, c'est un être vivant comme tant d'autres. Du coup, il a sa petite nourriture favorite et ses petites habitudes et son petit confort.
Après, il mange de tout. Il mange vraiment de tout. Mais voilà, il ne faut pas lui donner trop de grosses quantités d'un seul coup, quoi.
Mais oui, il y a plein de sortes de compost. Là, on a parlé du lombricomposteur, il y a le compost standard, il y a aussi le compost bokashi à partir de ferments. Donc là, c'est plus un type de moisissure, une bactérie, si j'ai bien compris.
Exactement. Alors, je ne suis pas un expert, j'en ai jamais fait du bokashi, mais pareil, c'est ça, c'est un type de moisissure et qui permet vraiment de réduire la masse, le volume du déchet. C'est assez intéressant, mais je ne mentirai pas, je n'ai jamais pratiqué le bokashi.
Ah oui, c'est sûr, il y a plein de façons de faire. Moi, je me sens un peu alchimiste par moi-même, parce que j'aime bien faire des petites expérimentations chez moi. Je me suis trouvé une poubelle où je mets tous mes biodéchets dedans. Des fois, je mets un peu de terre, du marc de café, je le retourne un peu de temps en temps. Je vois la moisissure qui arrive. À un moment, je l'ai ouvert, c'était tout blanc dedans.
Ah oui.
C'était tout blanc, le truc, il avait grandi et tout. J'étais assez émerveillé de voir ça. Je me sentais vraiment l'âme d'un alchimiste à ce moment. Là, même si au final c'est juste des expérimentations, c'est pas grand chose. Est-ce que peut-être il y a des conseils si on veut faire un compost chez soi, c'est quoi la base, le truc le plus simple qu'on puisse faire?
En fait, c'est pas très compliqué. Le truc du compost, c'est que ça a tendance, en fait, on a un peu tendance à être dégoûté par les déchets. Et du coup, on a un peu de mal à s'y mettre. Une fois qu'on s'y met, franchement, c'est pas très compliqué. Si on a des contraintes, alors la contrainte la plus forte, ça va être les moucherons ou les odeurs, en effet. On va pas se mentir, ça peut sentir. Tout dépend du type d'alimentation qu'on a. Mais encore une fois, c'est de toujours bien garder. Souvent, on se dit, ah, je vais faire du compost, je vais mettre mes déchets alimentaires dans une boîte et je vais attendre et je vais remuer une fois de temps en temps et on verra ce qui se passe. Ça demande quand même un peu de travail, c'est vrai. Donc, il y a ce mélange dont on parlait qui est super important de déchets alimentaires et de déchets verts, de déchets carbonés. Donc, ça peut être la boîte de coquilles d'œufs. La boîte de coquilles d'œufs, c'est une super astuce. On met ses déchets alimentaires, on met les coquilles d'œufs par-dessus, on limite les odeurs, on limite les moucherons et la dégradation. Et le bon mélange va permettre de composter facilement. Et voilà, et après, c'est de ne pas hésiter à mettre un peu la tête dedans et de regarder ce qui se passe, si c'est trop sec, si on voit que c'est trop humide. Voilà, et d'apprendre un peu à le connaître comme une plante.
J'arrose mon bac avec compost.
Ouais, voilà, exactement.
Puis peut-être qu'aussi, ça peut prendre du sens lorsque ça s'inscrit dans un écosystème fertile où on voit les différentes étapes. Et notamment, les composts sont très souvent associés avec les différentes techniques de jardinage, notamment la permaculture. Peut-être qu'on peut en parler juste après la pause. Ça nous ouvrira cette possibilité, entre autres, de parler de permaculture et puis des imaginaires un peu résilients que le compost permet de poser un peu comme une espèce de base, puisque si on n'a pas ce sol régénératif, tout le reste de la société paupérit, littéralement. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale à ce moment-là. Tu nous présentes la musique que tu as prévu de nous faire écouter et puis on reviendra juste après.
Ouais, carrément. C'est une musique que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et, ça me fait rire de l'écouter à ce moment-là parce que le titre s'appelle Compliqué. Et du coup, je trouvais ça drôle. Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Compliqué, tout est toujours compliqué, compliqué. Entre nous c'est compliqué, compliqué. Toi et moi c'est compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Entre nous c'est compliqué, compliqué. Tout est toujours compliqué, compliqué. Y'en a masse, c'est compliqué. Aïe, papa, l'embisaka, pémou. Elemba kuzo bate Eko kakapacite Yaya, oko me mangambwa pamba Oko bo mamoto pamba Distance polingo pasi Tendresse bakisa awa SMS koga nga pamba Zelanga na kozonga Na kozonga Zela, 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 na. Koya. Compliqué, compliqué, compliqué. Tout est toujours compliqué, compliqué. Entre nous c'est compliqué, compliqué. Toi et moi c'est compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Entre nous c'est compliqué, compliqué. Tout est toujours compliqué, compliqué. Yolanda c'est compliqué.
Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4. Nous sommes en direct de 19h à 20h avec Gaëtan qui nous présente Les Alchimistes ce soir. Et juste avant la pause musicale, nous étions en train de parler du fait que finalement ce compost était le retour aux essentiels et que ça s'inscrivait dans des circuits. Et c'est ce qui permet aussi de donner du sens à ce genre d'activité. Quand on comprend que finalement, le fait de composter, ensuite on va pouvoir récupérer le fruit de ce compost pour ensuite faire des vrais fruits, notamment dans, par exemple, quand on fait de la permaculture ou vous, quand ensuite vous les redistribuez à des maraîchers locaux. Et c'est vraiment intéressant comme ça de pouvoir avoir connaissance de tout cet écosystème vivant et fertile qui peut naître et pousser à partir de ces composts-là. Et donc voilà, est-ce que tu veux un petit peu nous présenter, là on a beaucoup discuté, comment est-ce qu'on composte, c'est quoi le compost, etc. Comment même aussi, c'est quoi un biodéchet, c'est quoi un déchet organique, et puis la suite, avec qui est-ce que vous travaillez, qui récupère ça, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'ensuite ça vient régénérer les sols marseillais.
Ouais, carrément. Bah, c'est ce qu'on disait, donc à un moment on en a parlé rapidement, mais c'est donc de sortir de ce modèle donc linéaire et de recréer de la circularité, de dire qu'en fait il existe des modèles pérennes et qui peuvent mettre en place donc de la circularité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc sortir de ce modèle extractif et productif et de en fait repenser le déchet. Et donc nous c'est vraiment ça aujourd'hui, et moi c'est ce qui m'anime aussi, c'est de se dire en fait le déchet aujourd'hui, on dit que c'est, enfin, la définition d'un déchet, en fait, c'est quelque chose qu'on abandonne, quelque chose qu'on ne veut plus. Mais pourquoi on l'abandonne? Pourquoi on ne le veut plus? Alors que, en fait, c'est une ressource. C'est l'essence même de la nature. La nature elle-même, c'est ce qu'elle fait dans une forêt. Lorsqu'on perd une pomme, une feuille ou quelque chose d'un arbre, ça va retourner au sol, ça va se recomposter, qui va permettre de régénérer encore une fois les sols. Et c'est une boucle infinie. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de créer des modèles qui se basent sur ça, c'est ce qu'on appelle un peu le biomimétisme en fait, c'est de se rebaser sur les solutions fondées par la nature. Et aujourd'hui, nous, les alchimistes, à notre échelle, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire qu'il y a de la production de déchets et que cette production de déchets, aujourd'hui, elle est donc incinérée ou enfouie, les déchets alimentaires sont incinérés ou enfouis, c'est quand même quelque chose qui est assez aberrant. Et du coup, c'est de rompre avec cette idée-là, avec ce système-là, et de créer une boucle, donc en créant... Pour créer cette boucle, on va donc collecter ce déchet, le revaloriser et qui va ensuite servir donc à des maraîchers urbains. Sur la ville de Marseille, par exemple, nous on a l'occasion de travailler avec des maraîchers comme le Paysan Urbain, qui sont un producteur de micro-pousses, comme Terme de Mars, qui est une ferme urbaine en permaculture à Sainte-Marthe. On travaille beaucoup avec la Cité de l'Agriculture et notamment leur nouvelle ferme, la ferme Capri. Voilà, et le but c'est vraiment de créer des synergies et de créer donc une circularité avec tous les acteurs. En fait, tout seul on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est en s'associant et en travaillant ensemble intelligemment qu'on va pouvoir créer des boucles infinies et vertueuses.
Et alors, est-ce qu'il y a un petit parcours de l'alchimiste qui suit la boucle? Et alors, je ne sais pas comment est-ce que vous prenez la main des personnes avec qui vous travaillez, mais de leur dire, bah là, on était sur la première partie, et puis on vous donne la possibilité de continuer ce circuit, et donc peut-être, je ne sais pas, avoir une vraie fluidité de travail, également dans l'approche avec le grand public, sur la ferme de Capri ou les terres de Mars, et donc une personne qui vit à Marseille puisse venir se former à ces questions-là ou mettre la main à la pâte à son tour.
Ouais, carrément. Nous, notre volonté, en fait, c'est justement de... On... aussi de supprimer cette boîte noire du déchet. Pourquoi on veut composter localement ? C'est qu'aujourd'hui, nos déchets en général sont envoyés loin des villes. Et en fait, à partir du moment où on a fait le geste de jeter, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Mmh. On se dit, on l'a mis dans cette poubelle et bon, maintenant, c'est plus de mon ressort. Et du coup, nous, ce qu'on voulait faire, et c'est ce qu'on veut faire, c'est composter localement justement pour pouvoir montrer aux personnes ce qu'on fait. Montrer que, en fait, ce n'est pas si dégoûtant que ça et que c'est quelque chose d'essentiel. Du coup, créer des sites de compostage proches des villes, pour moi, ça prend tout son sens parce qu'une personne qui va produire des déchets sur le territoire, elle va pouvoir exactement savoir où finissent ses déchets, mettre la main à la pâte aussi si elle le souhaite, avec grand plaisir pour nous aider, et ensuite bah, savoir directement où est-ce que, enfin, à quoi ça va servir et où est-ce que ça va aller. On fait souvent des sensibilisations ou des choses comme différents ateliers dans des fermes, justement, pour permettre de faire prendre conscience aux gens de quand on jette son déchet, bah jusqu'où ça peut aller en fait. Mmh. Et ça peut retourner directement dans une terre maraîchère et puis voilà, et c'est recontinuer cette boucle.
Et si jamais on se projette dans une Marseille qui aurait vraiment réussi sa transition et qui soit particulièrement régénérée en termes de sol, comment est-ce que tu la visualises toi ? Comment est-ce que on s'inscrirait, nous, en tant qu'humains, dans l'espace ? Quelle serait l'utilisation qu'on ferait de l'espace public, privé, commun qui nous entoure ? Quelles seraient nos activités aussi ? Parce que finalement, quand on s'interroge sur ça, c'est plein de pratiques qui se mettent à se transformer sur les mobilités, sur la façon de travailler, sur la façon de se nourrir, sur la façon de se loger.
Ouais.
Est-ce que tu as envie de nous partager un peu cette vision, si jamais tu en as une ?
Oui, carrément. Je pense que c'est cette définition assez vague d'économie régénératrice. Je pense que les gros leviers, c'est déjà sortir d'une économie... sortir d'un modèle de propriété à plutôt une économie d'usage, c'est-à-dire à des économies collaboratives, arrêter de forcément vouloir acquérir, mais plutôt collaborer. Donc le partage, la mobilité, c'est aussi ça. C'est pas juste prendre son vélo, c'est aussi faire du partage, en fait, dans la mobilité. Donc moi, je pense que ça, l'avenir, c'est vraiment ça. C'est retourner à des économies d'usage, à des économies collaboratives. Et oui, déjà, ce serait déjà quelque chose de bien. Et voilà, arrêter d'être dans ce modèle productiviste. Il faut savoir, là c'est vraiment un chiffre comme ça, mais l'économie circulaire, c'est quand même un secteur qui est exponentiel, qui emploie de plus en plus de monde, et je pense que c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment un avenir dans ça, dans la circularité. Le monde linéaire va s'arrêter au bout d'un moment, on le sait, les ressources sont pas indéfinies. Du coup, il y a vraiment un enjeu, et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est recréer des modèles, recréer de l'imaginaire collectif. Donc dans la collaboration, on ne peut pas tout seul. Le modèle des grosses entreprises qui prétendent faire tous les secteurs d'activité, je pense qu'à un moment, ça va s'arrêter. Mmh. Et du coup, c'est prendre la richesse, le terreau qu'il y a directement, pas, sans parler de la terre, mais le terreau d'acteurs qu'on peut trouver sur un territoire, et les faire collaborer ensemble, imaginer ensemble. Et voilà, je pense que c'est en créant une belle agora qu'on pourra...
On a parlé de plein de choses, j'ai entendu un peu dans tout ce que tu nous as raconté, le fameux seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, le fait de collaborer, le fait de l'économie d'usage, donc de payer par rapport à l'usage que l'on fait de quelque chose, le fait de mutualiser et de partager. Et ma question, ce serait comment vos projets futurs, rentre dans ce cadre-là. On a vu déjà que vous faisiez plein de choses, il y avait plein de projets, et je sais que vous avez des choses aussi en réserve dont on n'a pas encore parlé, j'aimerais que tu nous en parles à ce moment-là.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais dire par entraîner
Mais quels sont vos projets pour mutualiser les choses, pour partager, pour rentrer dans la circularité, créer les synergies dont tu nous as parlé?
Ouais, carrément. Pardon, c'est moi qui n'ai pas bien compris. Par exemple, un exemple de partage qu'on peut faire, nous on travaille en collaboration avec une coopérative qui s'appelle Tout en Vélo. Tout en Vélo, ils font donc de la cyclo-logistique. Et en fait, nous, dès le départ, quand on s'est mis à faire de la collecte de déchets alimentaires, la première chose qu'on a faite, c'est faire de la collecte à vélo, vu qu'on était dans l'hypercentre. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit, y a d'autres acteurs, et en rencontrant Tout en Vélo, on se dit, il y a d'autres acteurs qui sont beaucoup plus performants que nous. Donc au lieu de le faire en interne, pourquoi pas réfléchir à travailler ensemble. Donc on a commencé à travailler avec Tout en Vélo. Au final, aujourd'hui, on est carrément en colocation, on partage des bureaux et on travaille ensemble. Donc ça, pour moi, c'est un modèle de collaboration qui marche. On travaille aussi avec beaucoup d'autres acteurs, que ce soit des acteurs du recyclage comme Lemon Tree, qui est aussi une entreprise solidaire. Et en fait, on essaie de réfléchir à des offres mutualisées, on essaie de réfléchir à de la collecte partagée. Voilà, je pense à un projet notamment qui est impulsé aussi par les alchimistes et par un autre réseau d'acteurs, Livrazou, qui est une plateforme de livraison, une plateforme logistique solidaire qui est donc qui prend la mutualisation de logistique et la mutualisation des flux. Voilà, on essaie de penser à de nouvelles boucles et de s'insérer dans ces nouvelles boucles collaboratives.
Un super projet, Livrazou, de mutualisation, de livraison et de récupération des déchets en même temps.
Voilà,
je suis fan.
Dernier kilomètre, mobilité décarbonée, mutualisation des flux. Non, c'est très, je vous invite à aller regarder de plus près.
Là où c'est très fort aussi, c'est que tout à l'heure tu nous parlais de biomimétisme, et donc finalement comment est-ce que nous, nos comportements humains peuvent s'inspirer de la nature pour, enfin de la nature, même si le terme de nature en tant que tel se questionne, on va dire des écosystèmes vivants pour mettre en place des boucles de rétroaction, enfin des boucles qui permettent, pas de boucles de rétroaction, ça c'est un autre...
C'est plutôt une mauvaise boucle.
Une plutôt mauvaise boucle, ouais, mais de mettre au contraire des boucles qui soient vertueuses. Et là, ce dont tu nous parlais, c'est une forme de mise en place d'une permaculture entre structures où finalement chacune va venir apporter quelque chose au collectif, où chacun prend sa juste place, au même titre que quand on fait de la permaculture sur un sol, on se dit, bah, par exemple, il faut mettre des tomates à côté de pommes de terre, mais pas à côté des haricots, et il faut qu'il y ait telle ou telle espèce qui soit plutôt à l'ombre, l'autre qui soit plutôt au soleil, et celles qui ont besoin d'avoir un sol qui soit très azoté, d'autres qui ont besoin d'un sol qui soit moins azoté, et finalement, chacun prenant sa juste place fait qu'on arrive à être dans quelque chose d'assez génératif. Au contraire, enfin pas au contraire, de la même façon, c'est ce qui est en train de se passer là quand tu nous disais que finalement vous travaillez avec un grand nombre de structures marseillaises dans cette agora à laquelle tu aspires pour qu'il puisse y avoir ce juste équilibre de cet écosystème qui se nourrit. Et tout à l'heure pendant la pause, tu nous parlais un petit peu de l'équilibre économique de tout ça. Est-ce que tu vois en quoi est-ce que travailler avec toutes ces structures fait que vous ne vous voyez pas comme des concurrents qui pourraient venir vous rentrer dedans parce que vous allez prendre des subventions ou récupérer un marché, mais au contraire vous dire bah, en fait c'est tout et tous ensemble qu'on va réussir à mettre en place cette économie viable qui fait que tu vas en vivre, qui fait que ton voisin va en vivre et que... on peut proposer quelque chose qui soit réellement durable dans le sens où les personnes puissent vivre dignement avec ces façons de vivre en circularité.
Oui, carrément. Bah, je pense que la transition est tellement systémique et tellement grande que dans tous les secteurs, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Du coup, avant de vraiment arriver dans une concurrence où on pourrait plus s'implanter, je pense que c'est compliqué. Et pour nous, en fait, travailler avec des acteurs, ça paraît une évidence. On ne peut pas être bon partout. Déjà, être bon dans une chose, c'est compliqué. Donc, savoir tout faire. Voilà, l'exemple de avec Tout en Vélo, il est assez, assez parlant, en fait. On aurait pu se dire, faire du vélo et collecter des déchets alimentaires en vélo, c'est simple. Voilà, je l'ai fait beaucoup de fois, à prendre le vélo cargo et aller collecter les déchets en centre-ville. J'ai pris beaucoup de plaisir. Mais là, en l'occurrence, on a un acteur de la cyclo-logistique qui partage, qui plus est, des valeurs très similaires aux nôtres.
Qui sont ?
Qui sont bah, l'économie solidaire. Donc, voilà, c'est un modèle donc, de coopérative. Donc, c'est ça, c'est une société inclusive et solidaire avec un partage des ressources et un partage équitable de la valeur. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, autant utiliser leurs compétences à elles pour nous, en fait, nous faire monter en compétences. Parce que peut-être que sans les utiliser, notre manière de collecter aurait été bah, peut-être moins rapide, moins bien faite. Et du coup, en fait, on aurait sûrement perdu des clients. Aujourd'hui, on a des acteurs qui sont des professionnels de la cyclo-logistique et je pense qu'on gagne à pérenniser ce genre de partenariat et on peut l'étendre à beaucoup plus de sujets. Nous, en l'occurrence, la mobilité, c'est un gros sujet parce qu'on transporte des déchets, donc c'est vraiment génial qu'on puisse faire ce partenariat. Mais je pense que pour tout type de projet, en fait, il peut y avoir des symbioses, des synergies avec des acteurs et il faut se servir de ça comme une force et non pas le voir comme une concurrence en fait. La concurrence, je pense que c'est toujours positif plus il y a d'acteurs, en fait, on peut le voir avec ce truc tout bête de marcher dans la rue, et quand on se dit, ouais, il y a deux boulangeries à côté, ça va jamais marcher, mais en fait, si, ça attire encore plus de monde qu'il y ait deux acteurs similaires au même endroit. Et je pense que c'est un peu pareil dans l'économie, faut pas se dire, il y a de la concurrence. Non, faut justement se dire que plus il y a un terreau actif, plus en fait, on va pouvoir créer de belles choses et aller plus loin.
J'aimerais rebondir par rapport à une émission qu'on a eue il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 semaines, je crois, par rapport où on parlait beaucoup des coopératives. Et là, tu nous as parlé de Tout en Vélo, qui est une coopérative, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Est-ce que les alchimistes ont déjà pensé à s'inscrire dans une coopérative pour justement faire fructifier toutes ces symbioses, tous ces marchés communs et ces offres communes à proposer à des clients communs pour proposer une qualité de service encore plus efficace, quoi?
Alors, faut savoir que les alchimistes, on est une entreprise solidaire. Donc, on est une entreprise labellisée, agrémentée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'on prend des engagements par rapport à la rémunération des salariés équitable, par rapport à l'inclusion, par rapport à la manière de recruter les personnes. On s'engage sur plusieurs sujets, et c'est ce qui fait qu'on est une entreprise solidaire, active dans l'ESS du coup. Et on n'a pas eu, enfin, c'est pas un sujet d'être une coopérative. Il y a des structures, les alchimistes sur le réseau national, qui ont été d'abord créées sous la forme d'une association. C'est notre cas. On a été d'abord une association pendant 1 an et demi. Maintenant, on est devenu une entreprise labellisée ESUS. Mais voilà, je pense qu'il y a tout type de structures qui répondent à des enjeux différents. Mais là, en fait, je pense que au final, la volonté, c'est de créer des économies inclusives, des économies qui ne sont pas complètement aberrantes et où on a des partages de ressources. Et voilà, que ce soit une coopérative, une entreprise ESUS, une association, en fait, les valeurs sont à peu près les mêmes.
Et est-ce que tu penses que ce genre d'économie solidaire, l'ESS dont tu parlais, est mûr pour vraiment passer un cap et peut-être même une forme de basculement? Tout à l'heure, tu parlais des grandes entreprises en disant qu'on arrivait à la fin d'un certain modèle, qui est peut-être le modèle dans lequel on travaillait nos parents, parfois nos grands-parents aussi, avec une projection très linéaire, avec belle carrière, bon salaire, belle voiture, belle maison, qui font que ce genre de parents, lorsqu'ils voient leurs enfants qui s'engagent dans ce genre d'économie sociale et solidaire, on peut avoir un peu peur de se dire bah « ouais, mais c'est le moins payé », et puis ça te met dans une situation qui peut être plus inconfortable d'un point de vue matériel. Est-ce que tu penses qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut gagner ailleurs, avec le sens que ça apporte, avec la richesse des rencontres et des interactions, qui fait qu'on n'est plus très loin pour que ça puisse vraiment devenir une alternative qui prenne la place en tant que nouvelle majorité?
Ouais, carrément. Bah, je pense que voilà, c'est ce challenge de passage à l'échelle, en fait, porteur de projet, petit porteur de projet, ensuite réussir à créer derrière un modèle qui soit vraiment pérenne, sans rentrer dans des modèles conventionnels, mais que ça soit un modèle pérenne. Je pense qu'on n'est vraiment pas loin, on le voit, il y a de plus en plus de structures qui émergent et qui sont hyper inspirantes sur le territoire, mais ailleurs que sur le territoire. Et c'est juste à nous de revoir nos modèles, et je pense que ça passe aussi par la formation, notamment des futurs diplômés. On le voit, il y a pas mal beaucoup de diplômés qui prennent ce parcours un peu de rupture. Et je pense que c'est quand on va arriver à intégrer ces nouveaux modèles économiques, dans les écoles, qu'on va sûrement réussir à faire complètement changer l'économie. C'est sûr que ça prend un peu de temps, mais je pense qu'on est déjà... Enfin, l'ESS, c'est vraiment quelque chose, l'économie circulaire aussi, c'est vraiment quelque chose qui attire de plus en plus de personnes. Et qui est de plus en plus importante sur le marché. Et je pense qu'on est... De toute façon, on n'a pas le choix et ce sera forcément l'avenir.
Ouais, on le disait en début d'émission, il y a une conscience qui se réveille, l'importance de certaines choses qui vient à nos yeux, alors qu'avant on était complètement aveuglé par le luxe et un certain modèle. Aujourd'hui, maintenant, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que d'avoir une belle voiture, etc. Il faut prendre soin de notre planète, parce que c'est notre maison à tous. Donc, on a vraiment besoin de faire ça. On voit les étudiants d'AgroParisTech, notamment, et d'autres qui ont suivi, qui choisissent de complètement changer de vie, de faire des grandes études qui les mèneraient à travailler dans des industries, qui finissent par devenir maraîchers ou qui finissent par être boulangers, à faire un travail du quotidien parce qu'ils veulent travailler la matière, donner, partager leur amour de faire les choses aux autres. Et ça, on le voit de plus en plus. Je lisais récemment quelque chose aussi par rapport à l'hygiène émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce qu'on parle de notre physique, de notre alimentation, de notre santé. On se lave les dents tous les jours, mais est-ce qu'on fait attention à comment on se sent dans notre tête? Et travailler dans une grande entreprise, si c'est pour être stressé sans arrêt et finir en burn-out, le burn-out qui est une maladie assez récente, que l'on dramatise un peu de plus en plus et qui devient de moins en moins tabou, on se rend compte que maintenant, il faut éviter et que notre santé mentale est plus importante que le salaire que l'on aura.
Pour compléter ce que tu viens de dire, on ne se bat pas que pour la planète, on se bat aussi pour cultiver son écologie intérieure.
Ouais, carrément.
Exactement.
C'est très bien dit. Non, mais c'est ça. Et de toute façon, je pense que l'écologie même, en fait, c'est aussi ça. Et puis quand on parle de permaculture... En fait, on ne parle pas que de l'environnement, on parle aussi de soi-même, parce qu'en fait, on s'inscrit dans l'environnement. On a eu tendance à dire il y a les hommes avec un grand H d'un côté et la nature de l'autre. En fait, c'est complètement faux. On est une pièce et on fait partie de ce grand puzzle. Et du coup, c'est à nous de retrouver notre place, de se réinsérer dans ces modèles. Et évidemment que travailler dans ce type d'économie, bah, ça apporte un bien-être qui est très fort et puis voilà, un sentiment de, je sais pas, d'accomplissement. Et c'est toujours plus sympa de se lever le matin en disant que je fais quelque chose d'utile que se dire que je gagne bien ma vie.
Est-ce qu'on n'a pas intérêt à terminer sur ce genre de phrases qui sont quand même hyper positives et puis peut-être juste... Enfin là, moi, j'aurais envie de dire merci, au revoir, tellement c'est...
Mais oui, en même temps, Marin, on parle de permaculture de vie, comme tu aimes souvent nous en parler. C'est exactement ça, l'écologie à plusieurs niveaux, l'écologie d'abord interne, puis autour de soi, puis globalement c'est à tout niveau l'écologie, ça dépend juste de l'échelle à laquelle on va regarder à l'échelle d'un territoire, là, comment tu nous parlais de réfléchir comment implanter un site sur le territoire, il faut le réfléchir pour savoir là où ça va être intéressant, là où les flux arrivent, les flux partent, pour c'est stratégique. Ça ne se fait pas de n'importe quelle façon. Et on peut revenir sur le biomimétisme si on étudie le blob, par exemple, qui est un animal qui allait dans l'espace avec Thomas Pesquet, par exemple, et qui avait permis de refaire tout le système de transport de Tokyo, qui est un sacré micmac, qui est justement très compliqué, pour revenir sur le titre de ta chanson. Peut-être on pourrait finir sur quel serait ton rêve? Qu'est-ce que tu imagines sur la vie? Là, on a parlé de plein de choses. Ouais. Qu'est-ce que tu imagines, ton rêve? T'as 2 minutes.
Waouh. Qu'est-ce que c'est, mon rêve? Que tout le monde fasse du compost. Non, ce serait pas mal. Je sais pas si c'est mon rêve, mais ce serait pas mal. Non, mais je pense que tout ce qu'on a dit, franchement, ça me fait rêver. Et bah, ça me ferait rêver qu'on puisse avoir ce genre de discussion à une échelle plus grande, que tout le monde ait envie voilà, de parler de ce type de sujet, qu'on n'ait pas l'air moralisateur, et qu'en fait, il y a juste un réenchantement. J'aime bien cette définition de réenchantement du monde, de réensauvagement, et qu'en fait, voilà, on prenne un peu plus le temps aussi, qu'on soit un peu moins pressé, qu'on prenne un peu plus le temps. Il n'y a pas que le compost, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, qu'on a oublié de faire, qui sont en fait des choses qu'on faisait depuis toujours. Donc voilà, prendre le temps et réensauvager un peu.
Les mains dans la terre et la tête dans les étoiles,
c'est très joli.
Cette conclusion. C'est effectivement, je te remercie Gaëtan pour... Enfin, nous te remercions avec Arthur et Chloé qui étaient en régie, et puis Sidi qui discute avec Chloé pour cette belle émission où on a pu à la fois réfléchir sur des aspects qui sont extrêmement concrets, qui nous ramènent aux purs essentiels, purement matériels, de ce qui nous permet de répondre à nos besoins existentiels, tout en comprenant les implications multiples que ça peut avoir sur l'écosystème dans lequel on vit, sur ses relations humaines, sur son travail, sur sa façon de vivre, et puis de finir sur de la poésie. Je trouve ça assez chouette.
J'aimerais donner un petit mot de fin. Moi, d'après tout ce que j'ai compris, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est vraiment de rendre souhaitable toutes ces alternatives, ces modes de vie plus sains, plus tranquilles, où l'on prend le temps de voir les choses évoluer, où l'on vit avec la nature. Rendre souhaitable toutes ces alternatives qui, au fond, nous font gagner beaucoup de choses qui n'est pas de l'argent, mais qui n'est pas palpable, mais qui du coup n'a pas de valeur et qui est donc inestimable.
Carrément. Et quand on n'aura plus besoin de dire économie alternative, ou, je pense qu'on aura gagné le pari.
Merci de rendre souhaitable
merci à vous aussi.
Ces nouveaux modèles.
Merci beaucoup.
On rend l'antenne, merci à toi Gaëtan, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.